This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio 10.
France Inter. Le
18-20 ce soir auprès de la communauté portugaise en France, en Pologne et au Burkina. C'est ailleurs dans le monde, le journal de l'international signé tous les jours, Michael Thébault. Cinéma, Eva Bétan viendra tout à l'heure avec une interview du réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa. 18h55, Arnaud Le Parmentier pour un édito inflammable sur Jeremy Corbyn qui aurait déjà, selon Arnaud Le Parmentier, retourné sa veste. Mais tout de suite, la Palestine, Israël et l'ONU.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Moment très symbolique aujourd'hui au siège des Nations Unies où le drapeau de la Palestine doit être hissé pour la première fois. L'image, même si ce n'est qu'une image, restera à coup sûr car elle marque un pas de plus dans le jeu diplomatique engagé par les Palestiniens qui ont obtenu déjà le statut d'État non membre à l'ONU, le même statut que le Vatican. Mahmoud Abbas disant il y a quelques minutes à la tribune de l'ONU que la Palestine mérite d'être reconnue en tant qu'État à part entière à l'intérieur même de l'Organisation des Nations Unies. Et maintenant, la question est toujours aussi vaste et indécise. Gaza et la Cisjordanie sont sous tension. Des affrontements réguliers se déroulent autour de l'esplanade des mosquées. La lutte contre l'organisation État islamique relègue très loin dans la liste des urgences internationales le processus de paix palestinien. Voilà où l'on en est et où démarre notre dialogue ce soir avec deux diplomates. Majed Bamia, que je salue, bonsoir.
Bonsoir.
Diplomate palestinien, vous êtes en direct et depuis Ramallah, en Cisjordanie. Nissim Tzfili, que je salue également. Bonsoir, monsieur l'ancien ambassadeur d'Israël en France.
Bonsoir.
Vous êtes en direct d'Israël. Majed Bamia, Mahmoud Abbas est en train de s'exprimer en ce moment même à la tribune des Nations Unies. Mais un mot sur vos couleurs, les couleurs palestiniennes, hissées dans quelques instants aux côtés des 193 autres drapeaux des pays membres. C'est un jour particulier pour vous, une image forte?
Un jour très particulier. Nous avions disparu de la géographie et nous avions failli disparaître de l'histoire il y a 70 ans maintenant. Et maintenant, nous pouvons lever notre drapeau auprès des autres nations du monde. Le rêve ne sera complet que le jour où nous pourrons lever ce drapeau à Jérusalem, qui sera la capitale de la Palestine, la capitale de la paix, partagée et dans notre État indépendant. Mais c'est un pas très important vers la reconnaissance de la Palestine sur la scène internationale.
Majed Bamia, c'est le maximum que vous pouvez espérer et obtenir pour l'instant, aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce moment symbolique, ces couleurs hissées à l'ONU à New York?
Et il faut comprendre qu'il n'y a pas très longtemps, ce drapeau, si on le levait sur la terre de Palestine, on pouvait être emprisonné par la puissance occupante. Aujourd'hui, il flotte sur beaucoup des villes palestiniennes. Certains disent qu'il serait impossible qu'il flotte au-dessus de l'ONU avec les autres drapeaux. Et pour nous, c'est un pas de plus, mais ça n'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est l'indépendance effective. Ce que les Palestiniens attendent, c'est la liberté réelle. Mais ce qu'ils voient, c'est que beaucoup à travers le monde soutiennent la liberté à travers ce geste qui doit amener vers une reconnaissance effective et vers l'occupation.
Nissim Tzfili, je rappelais à l'instant que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Comment vous la voyez-vous, cette image du drapeau palestinien à l'ONU? Israël a voté contre le fait qu'on puisse hisser les couleurs palestiniennes.
Je comprends très bien le très fort sentiment que ressentent une grande majorité des Palestiniens qui vivent dans la Cisjordanie, dans la bande de Gaza, un peu partout dans les pays arabes, en Israël. Mais je crois qu'on est en train de vivre un paradoxe très fort entre le drapeau de Palestine qui va être relevé dans quelques minutes à l'ONU et le discours de Mahmoud Abbas. Le discours du président de l'autorité palestinienne, c'est un discours de frustration, c'est un discours de désespoir, c'est un dernier appel à la communauté internationale de faire quelque chose pour changer la situation. Et quand on voit d'un côté le drapeau palestinien à l'ONU et de l'autre côté un discours qui est presque un discours de défaite, qui dit je suis arrivé à un point dans lequel je reconnais que ni notre pression, ni nos relations, les relations internationales qu'on a créées avec des dizaines et des centaines de pays dans le monde ont réussi à amener une vraie solution au conflit israélo-palestinien.
Monsieur l'ambassadeur,
il y a un drapeau Monsieur... il y aura un drapeau, mais il n'y a pas d'État palestinien indépendant, et je crois que c'est un échec de la communauté internationale, c'est un échec de l'État d'Israël, et c'est aussi un échec de l'autorité palestinienne.
J'ai l'impression que l'accablement et le désenchantement que vous prêtez au président Abbas, vous l'éprouvez vous-même, Nissim Tzfili, ouais, diplomate israélien.
Oui, je partage complètement, mais vraiment, je le sens exactement. J'ai rencontré le président de l'autorité palestinienne la semaine dernière avec trois autres ambassadeurs, anciens ambassadeurs d'Israël à Paris. J'ai ressenti ce désespoir, j'ai ressenti cette frustration, je les partage, mais vraiment, du foin, de tout ce que je ressens, c'est exactement ce qu'il ressent. C'est surtout, pour moi, c'est une déception énorme, d'abord de mon pays, parce que c'est dans l'intérêt de l'État d'Israël et de la société israélienne de permettre la création d'un État palestinien indépendant aux côtés d'État palestinien pour essayer de prévenir un avenir qui risque de mener à un État binational qui va être une catastrophe pour l'avenir de l'État d'Israël. Ça veut dire que quand je vois les résultats de tout ce qui se passe dans la communauté internationale, les résultats de tous les efforts qui ont été faits par Obama, par son équipe, et je vois les résultats après des années, je comprends pas comment on peut vivre encore dans une situation dans laquelle, depuis 1967, ça fait déjà 55 ans, je crois, ou 45 ans, pardon, on continue à occuper un autre pays, on continue des territoires, on continue à dominer un autre peuple. Et pour moi, je crois que c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée à l'État d'Israël, surtout depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin.
Majed Bamia, comment prenez-vous ce que Nissim Tzfili vient de décrire à l'instant comme un paradoxe? Effectivement, les couleurs de la Palestine à New York, à côté des autres drapeaux de l'État membre, et en même temps un président Abbas affaibli de fait et au bout, en quelque sorte, de tout ce qu'il a tenté.
Et Oslo et les accords de paix d'Oslo devaient durer 5 ans. Nous avons attendu 20 ans et l'État palestinien n'est toujours pas venu. Le nombre de colons était à 100 000 au moment où nous avons signé ces accords de paix. Aujourd'hui, ils sont 650 000. Jérusalem n'a pas subi d'attaque comme celle qu'on est en train de connaître depuis maintenant 10 ans. Une attaque terrible de colons, de soldats, entrée sur les lieux saints, démolition de maisons, colonisation, le siège de la bande de Gaza au cours de ces 7 dernières années. Les raisons du désespoir sont énormes. L'action de la communauté internationale est quasiment inexistante. Nous avons soutenu les résolutions internationales justes et injustes, toute initiative de paix arabe, initiative française. Nous étions prêts à tout ce qui aurait pu mener à l'État palestinien à travers les négociations de paix. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est pas que nous allons abandonner la lutte, c'est pas que nous renonçons à la liberté, c'est pas que nous allons juste plier bagages. Nous sommes sur notre terre où nous comptons vivre en liberté et en dignité. Nous sommes 11 millions de Palestiniens qui cherchons un destin. Nous n'allons pas disparaître demain. Ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas nous faire porter la responsabilité seule d'arriver à la paix. C'est qu'il y a une puissance occupante. Il faut qu'elle mette fin à son occupation et qu'elle assume ses responsabilités. Pendant très longtemps, cela lui a été épargné. Pendant très longtemps, nous avions, nous, eu à assumer les responsabilités pendant qu'Israël jouissait de l'impunité. Il faut que cela cesse. C'est cela le message du président Abbas. Mais je vous dis, notre liberté demeure inéluctable. Nous n'allons pas accepter cette occupation. Vous regardez hier et aujourd'hui les manifestations contre cette occupation. Le peuple palestinien est déçu, mais il n'est nullement résigné.
Alors précisément, allons sur place, où c'est tout de même l'enlisement, un enlisement chaud si j'ose dire, un enlisement parfois violent. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Enlisement donc et tension palpable à Gaza et en Cisjordanie. Hein.
Et ce qu'on sent derrière cette tension, c'est un profond sentiment de frustration et un rejet aujourd'hui de la politique de Mahmoud Abbas basée sur le refus de la violence et sur les négociations. Quand on visite certains camps de réfugiés ou quand on interroge interroge des responsables de l'OLP. On entend que l'autorité palestinienne est allée donc au bout de sa politique, qu'elle est maintenant dans une impasse et que les gens sur le terrain concrètement attendent une porte de sortie. La légitimité de Mahmoud Abbas repose sur les résultats. Or, il n'y a ni avancée sur la paix, ni négociation, ni soutien affiché de la communauté internationale, ni processus politique en interne pour régénérer l'appareil politique. Les Palestiniens se sentent piégés finalement par le processus d'Oslo. Il est accusé de normaliser, d'installer l'occupation sans offrir de débouchés. Si la cote de popularité de Mahmoud Abbas est si faible aujourd'hui en Palestine, c'est notamment parce qu'il est aussi accusé en interne par certains d'être l'instrument de ce statu quo en utilisant ses forces de sécurité pour contenir la violence interne, finalement au profit de la puissance occupante.
Majed Bamia en disait un mot à l'instant. Étienne, parlez-nous de ces affrontements presque quotidiens depuis 3 semaines autour de l'esplanade des mosquées. Étienne ?
Oui, c'est finalement plus un symbole qu'un affrontement d'une grande intensité, on va dire. Ça n'est pas massif, mais c'est le symbole de ce qui se joue en ce moment. Schématiquement, les Palestiniens ont le sentiment qu'Israël tente de diviser l'endroit en l'ouvrant plus largement aux fidèles juifs, pour lesquels c'est aussi un lieu sacré. C'est le symbole du refus de cette dépossession dans ce qu'il y a de plus sacré, de plus important, mais c'est aussi l'utilisation de l'outil de la résistance contre une mouvance israélienne nationaliste, soupçonné d'être soutenu par le gouvernement, même si Benjamin Netanyahou se défend de vouloir changer quoi que ce soit dans l'accès à ce lieu saint. Et donc il y a beaucoup des ingrédients du conflit finalement qui se jouent et du rapport de force autour de cet endroit.
Étienne, dernière question, est-ce que le mot intifada est prononcé? Est-ce qu'il est dans toutes les têtes?
Pour l'instant, ce qu'on entend, c'est plutôt le mot résistance, changer de politique, rajouter la résistance aux politiques, à la discussion, à la négociation pour essayer d'obtenir quelque chose. Le sentiment ici, c'est que vraiment les choses sont bouchées et certains disent encore qu'ils espèrent sur le terrain la solution à deux États. Mais honnêtement, il y a du côté des Palestiniens aujourd'hui de moins en moins d'espoir porté sur cette possibilité, celle d'obtenir aujourd'hui la solution à deux États.
Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem en direct avec nous. Vous la redoutez, Nissim Metzvili, cette nouvelle intifada dont on ne parle pas encore, même si on a pu entendre le mot ici et là prononcé?
Vous savez, je crois que c'est une très grave erreur d'essayer de concentrer maintenant l'intention ou l'attention internationale sur ce qui se passe à Jérusalem ou sur le mont du Temple. Ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème de profondeur, c'est que ce qu'a mentionné votre reporter à Jérusalem, c'est que dans les deux peuples, il y a une perte de confiance complète dans la possibilité d'arriver à un accord politique qui permettra la création de deux États-nations. C'est ça le problème. Et vous savez, les deux sociétés arrivent à la même conclusion avec une analyse complètement différente. Ce que je crains le plus, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une majorité au sein de la société palestinienne, et pas seulement de la société palestinienne, mais des pays arabes dans le monde entier, qu'on ne peut pas arriver à un accord politique qui permet la création d'un État palestinien. Alors c'est pour ça qu'il faut patienter. Ils ont le temps. On va devenir un État binational. Dans une génération, deux générations, il y aura une majorité arabe, musulmane et chrétienne sur ce territoire entre le Jourdain et la Méditerranée. Et quand il y aura cette majorité, ce que demandera le peuple palestinien, c'est pas un État palestinien indépendant. C'est le droit de vote, le droit démocratique à l'ONU. Ça veut dire, et de l'autre côté, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il y a une minorité croissante, un courant qui s'amplifie dans la société israélienne qui dit, vous savez quoi, c'est pas tellement mal. Regardez comment on vit maintenant. On n'a presque pas de problème, ok, de temps en temps, on nous lance des
roquettes ou des pierres.
De temps en temps, il y a des roquettes, mais en fin de compte, notre situation économique est très bonne. On continue à dominer un autre peuple et leur réaction est très faible. Il n'y a pas vraiment de réactions qui font ressentir la population israélienne qu'on a un vrai problème. Vous savez quoi ? On va s'arranger, on va s'adapter à cette nouvelle situation, on va vivre avec ça, on va devenir peut-être comme M. Yitzhak Rabin avait dit il y a 20 ans de ça. Il avait dit qu'on risque de devenir un État d'apartheid. L'État d'Israël doit choisir entre la démocratie et l'occupation. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ça peut marcher pour 5 ans, pour 10 ans.
Mais pas pour l'éternité. Mais pas pour l'éternité. On a bien compris la portée de votre analyse, Nissim Zvili. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Majed Bamia, diplomate palestinien en ligne avec nous depuis Ramallah. Le président Abbas vient de déclarer à l'ONU que les Palestiniens ne sont plus liés par les accords s'ils ne sont pas respectés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut comprendre exactement par là ?
Il faut comprendre que vous aviez une période intérimaire qui devait mener à l'État. Et Israël a utilisé cette période intérimaire pour renforcer sa colonisation et son occupation. Et nous ne voulons pas lui permettre d'instrumentaliser notre sens des responsabilités pour faire préserver cette occupation. Mais je voudrais vous dire, vous savez... Les diplomates israéliens, quand ils sont en poste, défendent cette occupation, ou quand ils ne sont plus en poste, beaucoup la dénoncent. Les chefs des services de sécurité de l'occupation sont des instruments de cette occupation. Puis une fois hors de leur poste, ils avouent que cette oppression et cette occupation ne peut pas durer. Je crois que c'est une vérité que la société israélienne connaît au plus profond d'elle-même. Mais il faudrait que la communauté internationale mette un miroir pour qu'Israël puisse se refléter dans le visage de cette occupation et qu'elle prenne des mesures. Beaucoup disent que les sanctions contre l'Iran, qu'on soit d'accord ou pas, ont beaucoup aidé les négociations. Beaucoup disent que les sanctions à travers le monde, c'est quelque chose qui est acceptable et responsable. Ce n'est que dans le cas d'Israël qu'on dit qu'il n'y a que la négociation qui peut fonctionner.
Vous appelez clairement, Majed Bamia, des sanctions à l'égard d'Israël, hein ?
Je vous dis, un dialogue entre une puissance occupante qui n'a pas décidé de mettre fin à son occupation et un peuple sous occupation n'a aucun sens. Sans pression internationale, sans mesure, que ce soit la société civile ou que ce soit au niveau des États. Même les autres instruments du droit international sont beaucoup plus faibles que les mesures que peuvent prendre les États. Je dis que ce que le monde fait ailleurs, Israël ne peut pas demeurer l'exception pour le bien de tous les peuples de la région, y compris les Israéliens. Et je pense que c'est le message que vous entendez des deux bords. À cet instant. Je crois que les gens sous-estiment à quel point les Palestiniens ont le courage nécessaire pour continuer la lutte pour leur liberté, mais nous voulons le faire par des moyens pacifiques. Nous avons appelé le monde au cours des dernières décennies à nous aider à le faire. Nous sommes profondément déçus par ce monde qui n'a pas réussi à le faire. Nous sommes encore prêts à envisager toutes les options qui pourraient permettre la liberté, mais ce que nous ne sommes pas prêts à faire, c'est d'accepter l'occupation et de capituler pour elle. Ouais. C'est soit l'occupation, soit la paix, soit l'occupation, soit la paix. Il faut que le monde choisisse. C'est notre liberté qui mènera à la paix.
Eh bien, merci en tout cas, messieurs les diplomates. Majed Bamia, palestinien à Ramallah en direct avec nous. Nissim Tzvili en Israël, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci également à Étienne Monin, le correspondant de France Inter à Jérusalem. Un jour dans le monde continue dans le 18-20 de France Inter. Il est 18h36.
DBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Et bonsoir Nicolas.
Et pour commencer, on parle ce soir des élections législatives au Portugal, dimanche prochain, mais sous l'angle des expatriés.
Et oui, les expatriés, ou si vous préférez, la diaspora portugaise, et qui représente près de la moitié de la population totale du Portugal. Autant dire que son poids électoral est bien réel, et du coup évidemment très convoité. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Alors vous vous êtes rendu à la Queue-en-Brie, c'est dans le Val-de-Marne, près de Paris, très forte communauté portugaise. Et là, vous avez assisté à une réunion de l'association Civica, association des élus portugais, en plein meeting électoral.
Oui, à la tribune, devant une centaine de personnes, le secrétaire d'État des communautés portugaises de l'étranger achève son discours.
Portugal pode mais, Portugal à frente.
Portugal, Podemos, veut dire le Portugal peut davantage ou bien encore plus, et non pas Podemos, le nom du parti espagnol né du mouvement des indignés. Au contraire, le gouvernement social-démocrate portugais de centre-droit propose lui de poursuivre la politique d'austérité. Les expatriés élisent seulement 4 députés en tout. Pourtant, leur vote peut s'avérer décisif, selon Paulo Marquez, président de l'association Civica, qui regroupe effectivement des élus d'origine portugaise en France.
La réalité fait que lorsqu'il n'y a pas de majorité au Portugal, là, les communautés portugaises, les Portugais résidant à l'extérieur ont un poids extrêmement important parce que souvent, c'est eux qui font élire une majorité à l'Assemblée nationale. Monsieur Barroso, à l'époque, lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a réussi effectivement à avoir la majorité grâce aux députés de l'étranger.
Voilà, un acte civique, où que l'on soit, sachant, Sophie, que le Portugal, c'est 10 millions d'habitants sur son sol et plus de 5 millions d'expatriés.
Oui, près d'un million en France, mais leur abstention est très forte, déplore José Cesario, secrétaire d'État des communautés portugaises de l'étranger.
Ça, c'est un grand problème. Dans la dernière élection, il y avait un peu plus que 200 000 inscrits pour voter au Portugal. Et nous avons eu une participation de 35 000 seulement.
Oui, donc c'est vraiment très peu. Et pourtant, ce sont des gens qui ont déjà fait la démarche de s'inscrire.
Oui, oui, oui. Dans cette élection, nous serons de 160 000 personnes inscrites pour voter.
Mais c'est aussi une très forte influence économique, souligne Carlos Goncalves, député social-démocrate de la circonscription Europe.
Dans certaines régions, les Portugais de l'étranger ont quand même un poids économique, dans des régions surtout de l'intérieur. C'est vrai, si vous êtes maire et vous, d'une commune où il y a beaucoup de Portugais à l'étranger qui soutiennent le développement de votre commune dans le plan économique, vous en bénéficiez. Donc c'est une façon indirecte d'aider sous le plan politique quelqu'un.
Voilà, soutien d'autant plus précieux que 50 000 entrepreneurs d'origine portugaise sont aujourd'hui installés en France, Sophie.
Oui, et selon Carlos Vinas Pereira, président de la Chambre de commerce franco-portugaise, beaucoup d'entre eux investissent là-bas, dans l'immobilier ou bien dans des industries sur place.
Et donc pour eux, c'est primordial de pouvoir voter pour le candidat dont ils estiment que le programme sera en faveur de cet investissement et de cette projection qu'ils font au jour le jour au Portugal.
Et une position plus difficile à vivre au Portugal pour ceux qui subissent au quotidien ces mesures d'austérité.
Mais il se trouve que tous ces Portugais qui sont là-bas, ils ont tous de la famille à l'extérieur et donc sont tous concernés par ce double regard. Alors bien évidemment, le regard de celui qui a souffert et le regard de celui qui a vu les gens souffrir est complètement différent. Mais il faut savoir que le Portugal, lorsqu'ils ont fait appel à la Troïka, n'avait l'argent pour payer que 15 jours de salaire des fonctionnaires. Donc ça voulait dire vraiment, ils étaient au bord de la faillite.
Aux dernières élections législatives en 2011, sur les 4 députés élus des Portugais de l'étranger, 3 d'entre eux appartenaient au PSD, le Parti Social-Démocrate.
Sophie Delpont, merci beaucoup. Et j'ajoute que selon les derniers sondages, la coalition de centre-droit actuellement au pouvoir creuse son écart sur l'opposition socialiste, créditée de 43% des intentions de vote contre 33% au PS portugais.
Et à 18h40, 3 infos en bref, Michael, la première à l'ONU.
Oui, on en parlait il y a quelques instants avec vos deux invités, Nicolas. Le président palestinien Mahmoud Abbas a menacé il y a quelques instants devant l'ONU de ne plus respecter les accords avec Israël. Si l'État hébreu ne les respecte pas, nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords. Et Israël doit assumer toutes ses responsabilités de puissance occupante, a donc déclaré il y a quelques instants Mahmoud Abbas devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et on y reviendra évidemment en détail dans le journal de 19h avec Sébastien Paour.
Et le Yémen maintenant.
Oui, le Yémen et plus précisément la localité de Mokka sur les bords de la mer Rouge au sud-ouest de Sanaa, la capitale. C'est là que le bombardement d'une fête de mariage avant-hier a fait 131 morts, dont plusieurs dizaines de femmes et d'enfants. Une bavure imputée à la coalition arabe anti-Houthis sous commandement de l'Arabie Saoudite. Riyad dément, mais plusieurs membres de Médecins Sans Frontières présents sur place confirment le raid aérien. Est-ce en tout cas le pire massacre de civils depuis le début de la guerre au Yémen en mars dernier. dernier. Beaucoup plus réjouissant, en revanche, Nicolas, cette confirmation de la Nouvelle-Zélande hier soir. Le Premier ministre John Key a confirmé la création l'an prochain de l'un des plus grands sanctuaires océaniques protégés au monde, le sanctuaire des îles Kermadec, dans les eaux du Pacifique, au nord de la Nouvelle-Zélande. Une zone plus vaste que la France, 620 000 km² au total, où pêche et forage seront interdits. Et pour le plus grand bonheur, on l'imagine, des baleines, dauphins et autres tortues.
Allez, rien à voir à présent, direction Varsovie, où le ton monte face aux voisins russes.
Alors on peut même dire que ça chauffe diplomatiquement entre la Pologne et la Russie, relations, on le sait, déjà très tendues, mais qui se sont encore davantage crispées autour de la relecture russe de la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir Maya Szymanowska, en direct de Varsovie.
Bonsoir Mickaël.
Alors c'est l'ambassadeur de Russie en Pologne, Sergueï Andreïev, qui a mis le feu aux poudres.
En effet, ce lundi avant midi, l'ambassadeur de Russie, Sergueï Andreïev, a même été convoqué par le ministère polonais de l'Extérieur pour une demande d'explication. En cause, l'entretien donné par l'ambassadeur à la chaîne privée d'information en continu TVN24 vendredi dernier. Dans cette interview, le représentant de Moscou à Varsovie a lancé quelques petites phrases qui ont tout de suite enflammé le web polonais et l'opinion publique. En revenant sur le passé, ce passé qui fâche, Sergueï Andreïev a mis en cause la politique de la Pologne dans les années 1930 qui aurait bloqué la création d'une coalition contre l'Allemagne nazie et serait ainsi co-responsable de la Seconde Guerre mondiale selon l'ambassadeur de Russie. Quelques minutes après, l'ambassadeur ajoutait que l'invasion de la Pologne par les troupes soviétiques le 17 septembre 1939 n'était en rien une agression, mais une opération pour garantir la sécurité de l'URSS. Une phrase coup de poing quand on sait que suite à cette invasion, 200 000 soldats polonais ont été faits prisonniers par l'armée rouge, 22 000 officiers exécutés à Katyn et à Kharkov et plusieurs centaines de milliers de civils déportés vers l'est de l'Union soviétique en tant qu'ennemis de la nation.
Et réaction polonaise absolument immédiate, Maya.
En effet, on peut les résumer d'un mot, indignation. Certains commentateurs sont même allés jusqu'à se demander si l'ambassadeur ne devait pas être renvoyé dans son pays. Dans son communiqué, le ministère de l'Extérieur polonais a dénoncé des propos qui, je cite, « renouent avec les interprétations les plus mensongères de l'époque stalinienne et communiste ». Fin de citation.
Et il faut dire, Maya, que ces relations n'ont jamais été très simples.
Alors non, effectivement, Michael, les relations entre Varsovie et Moscou sont compliquées par un passé commun houleux. La Pologne ayant été un pays satellite de l'URSS, sur son sol stationnaient plus de 200 000 soldats soviétiques avant 1989. Et ces relations ont connu un dégel au temps de la Perestroïka, mais se sont de nouveau dégradées depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, et encore plus depuis le début de la crise ukrainienne, qui a attisé la peur des Polonais de voir ressurgir le spectre de l'URSS.
Maya Szymanowska en direct de Varsovie, merci beaucoup.
Et on termine, Michael, par l'Afrique, à l'honneur au 32e Festival des Francophonies en Limousin.
Et un festival qui a pour habitude de nous faire découvrir de nouveaux talents, et c'est vrai, souvent d'origine africaine, à travers le théâtre, la danse ou la musique. Et il y est souvent question de politique, Stéphane Capron, et même peut-être plus encore cette année.
Et oui, car en Afrique, les artistes ne peuvent dissocier l'art de la réalité du terrain. Les Francophonies accueillent cette année les Récréatrales. C'est un festival qui se déroule à Ouagadougou et dans la période d'instabilité que connaît actuellement le Burkina Faso, les menaces pèsent sur les artistes. Aristide Tarnaga est le directeur artistique des Récréatrales.
Les premiers ciblés de cette insurrection par les militaires putschistes, c'était les artistes, voilà, Smoke, Sams Khaledja, tous ces gens qui conscientisent, qui mobilisent, qui sèment les graines de la révolte à travers leur art chez le peuple, chez la jeunesse. Il y a quand même un engagement d'artistes assez fort, la preuve que nous sommes dangereux, entre guillemets, pour ceux qui viennent nous maintenir dans l'ignorance, dans l'esclavage.
On peut voir à Limoges, demain soir, Façon d'aimer, c'est le dernier spectacle d'Aristide Tarnaga.
Et vous avez également découvert, Stéphane, une jeune chorégraphe tunisienne très engagée.
Elle s'appelle Oumaima Manaï. Elle a reçu le premier prix de la chorégraphie au Festival de Tunis. Dans son solo époustouflant qui s'appelle Nit sans limite, elle danse avec du fil métallique barbelé, un geste hautement symbolique.
Je m'intéresse à parler avec mon corps et exprimer des choses sur scène. Et je trouve que c'est important, surtout dans notre société à nous, de s'exprimer avec le corps parce que c'est le premier langage, en fait.
Comment était ressenti votre spectacle quand vous l'avez présenté à Tunis ?
Le spectacle était, avec le grillage, le fil de fer, on le voit dans nos rues, on le voit devant le ministère de l'Intérieur, on le voit dans les manifestations, on le voit devant les aéroports et tout. Et je sens que ça parle beaucoup aux Tunisiens et ça parle beaucoup à ces gens qui sont contre un système ou quelque chose comme ça.
Lundi soir, après la première, Oumaïma était fortement entourée et déjà courtisée par les programmateurs. On ne devrait pas tarder à la revoir très prochainement en France.
Stéphane Capron, et si vous êtes dans la région de Limoges, ce 32e festival des francophonies en Limousin, c'est donc Rila Cranon jusqu'à dimanche soir. À demain, Nicolas.
À demain, Michael. Le 18-20 de France Inter continue avec deux stars, Eva Bétan dans quelques instants, et tout de suite Pharrell Williams.
En dessous.
Freedom. En dessous, évidemment.
Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is king. Last name is dumb. 'Cause you still believe in everyone.
Pharrell Williams, Freedom.
Moteur.
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand. Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Et le mercredi, on a la chance et le bonheur d'accueillir Eva Bétan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Eva, pardon, oh là là. Vous accueillir et parler de cinéma du monde entier. Ce soir, le japonais Kyoshi Kurosawa, Vers l'autre rive.
Écoutez, on va vous dire, on vous a parlé, c'est un film de fantôme. Moi, je veux dire que c'est tout sauf ça. C'est un road movie. C'est un film incroyable sur ce qu'est un lien entre deux couples, dans un couple. C'est un film aussi sur la nécessité des adieux. C'est un film qui va à l'encontre de la frontière que nous estimons radicale entre la vie et la mort. C'est un film qui veut vous dire qu'il y a une porosité entre les deux. Ça commence, un homme rentre chez lui. Ah, à part qu'il porte un horrible imper orange, c'est un homme comme un autre. Sauf que c'est le mari de cette femme qui avait disparu en mer depuis 3 ans. Et la vie va prendre comme si c'était naturel. Et il va l'emmener en voyage. Et ils vont partir pour quelques jours. Et ils vont être joyeux, ouverts. Mais en même temps, tout va revenir. Les rancœurs, les choses non dites. C'est un film d'une subtilité incroyable parce que vous ne savez pas quand vous êtes dans le rêve et quand vous êtes dans les réalités. Quand vous êtes dans la mort et quand vous êtes dans la vie. Tout est mêlé. Et c'est comme ça que quand on voit M. Kyoshi Kurosawa, on parle de fantômes. Et c'est tout à fait sérieux.
C'est effectivement un fantôme gentil. Si l'on part du principe que les fantômes existent, je pense que des hommes qui étaient gentils de leur vivant, s'ils deviennent des fantômes, resteront gentils. Je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale entre la vie et la mort. Je ne voulais pas mettre en opposition la vie et la mort. C'est-à-dire que, autant la mort pour moi n'est pas quelque chose de négatif, autant la vie n'est pas négative non plus. Voilà, je voulais dire qu'il n'y avait pas finalement de grande différence entre la vie et la mort.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une espérance? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Ce serait l'espérance. Vos questions me conduisent à affirmer des choses, mais je ne suis ni un religieux ni un penseur. Quand je réalise une fiction, je veux qu'elle se termine par une note d'espoir.
Vous pensez que l'espoir est nécessaire ? Vous avez vraiment cet espoir en vous ?
C'est une question difficile. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que j'ai déjà en moi cette espérance. Et en même temps, je crains de ne pas avoir assez d'espoir en moi. Mais je suis toujours à la recherche d'une forme d'espoir.
Alors Kyoshi Hirozawa est considéré comme un immense cinéaste. En Europe et particulièrement en France, c'est une graine de festival. J'ai envie de dire, il a été connu en France avec Cure, Cairo, Charisma, qui étaient des films qui allaient, je dirais, pour aller grossièrement vers l'épouvante, puis des films plus subtils comme Tokyo Sonata. Cinéaste remarquable. Alors on se dit, mais chez vous, vous êtes considéré comment ? La réponse va vous surprendre.
Je ne suis absolument pas considéré comme un grand cinéaste au Japon. En fait, c'est le concept même de réalisateur qui est en cause. Autrefois, il y avait les grands maîtres que tout le monde connaissait, même au Japon. Aujourd'hui, il n'y a que les amateurs de cinéma qui connaissent les réalisateurs vivants. Les Japonais ne portent pas d'intérêt à l'existence même du métier de réalisateur de films.
Est-ce que vous arrivez à financer vos films uniquement avec de l'argent japonais ou est-ce que vous avez besoin de l'argent étranger ?
Vu les films que je réalise, j'aurais du mal à être financé uniquement avec de l'argent japonais. Les films commerciaux n'ont aucun mal à trouver de l'argent. Les films indépendants à petit budget y arrivent aussi. Mes films sont dans une position intermédiaire. Ce ne sont pas des fresques, mais j'ai besoin d'un peu de moyens. Sans l'argent étranger, et surtout français, il me serait difficile de faire des films.
Alors nous, on a vu en France les films à partir de Cure, Cairo, Charisma et à peu près tous les autres, on a tout vu, mais peut-être pas les films de vos débuts. Vous avez vraiment commencé avec du porno soft ?
Oui, tout à fait. Au Japon, ça n'est pas quelque chose d'étonnant. Il y a eu une époque où beaucoup de réalisateurs ont commencé avec des films de porno soft. Ça leur a permis de commencer leur carrière, de rencontrer le succès, de continuer ensuite avec des films différents. Et moi aussi, j'ai fait mes débuts comme ça.
Alors, si l'argent français permet à Monsieur Kurosawa de faire des films banco, c'est un film inter, je précise.
Et il s'appelle Vers l'autre rive. Merci beaucoup Eva Bétan. Arnaud Le Parmentier est fan de Kyoshi Kurosawa. Il nous le confiait il y a quelques instants en l'entendant et en buvant ses paroles.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et nous allons maintenant boire les vôtres. Bonsoir Arnaud Le Parmentier.
Bonsoir Nicolas.
Vous frétillez de joie hein, aujourd'hui. Jeremy Corbyn aurait, selon vous, déjà retourné sa veste.
Ah Nicolas, les traditions se perdent. Avant, au moins, on avait le sens de l'honneur. On présentait 110 propositions révolutionnaires. On coulait l'économie du pays pendant 2 ans. Et on finissait par céder, mise à genoux, parler d'évaluation. C'était la méthode Mitterrand de 1981. Puis est venue la méthode grecque, un programme révolutionnaire, 6 mois de palabres et on accepte les réformes exigées par Bruxelles comme l'a fait avec brio Alexis Tsipras. Mais nous avons trouvé encore mieux. Jeremy Corbyn, 66 ans, élu triomphalement à la tête du Labour, retourne sa veste râpée avec élégance mais plus vite que son ombre sans passer par la case pouvoir. Alors revenons sur l'itinéraire du vieux nouveau leader du New Old Labour. L'apparence d'abord. Mardi, au congrès de son parti, Corbyn n'a pas mis de costume mais une chemise blanche avec une les cravates rouges travaillistes que portait Tony Blair. Ensuite, ce républicain s'est agenouillé face à la tradition. Il avait refusé de chanter le God Save the Queen pour les 70 ans de la bataille d'Angleterre. On le comprend, quand on ne croit ni en Dieu ni en la monarchie, chanter l'hymne national, c'est se renier 2 fois. Mais cela ne se fait pas, paraît-il, en Angleterre. 3. L'Europe. Jeremy Corbyn a promis de soutenir le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne lors du référendum suicidaire que compte convoquer le Premier ministre conservateur David Cameron. 4. Les nationalisations. Corbyn ne veut plus nationaliser les groupes énergétiques. C'est en tout cas ce qu'a dit sa shadow ministre de l'énergie. Jeremy et moi ne voulons pas nationaliser l'énergie. Nous voulons faire quelque chose d'encore plus radical. Nous voulons la démocratiser. La démocratisation radicale, c'est beaucoup moins ruineux que les nationalisations.
Donc la gauche peut revenir au pouvoir.
Mais on en est encore loin. Les classiques du Labour traînent des pieds. Monsieur Corbyn a eu le plus grand mal à constituer son cabinet fantôme, censé contrer le gouvernement conservateur. conservateurs. Corbyn est contre la force nucléaire britannique, contre l'OTAN, contre les Américains. Il est contre l'austérité, contre les inégalités. Un discours digne des socialistes français qui permet de conquérir le Labour, mais sans doute pas de gagner les élections. Surtout, indignons-nous, ces volte-face sont un désastre pour les politiques. Elles font le lit de tous les populismes.
En même temps, il a été élu, Arnaud, donc il incarne quelque chose.
Vous avez raison, il incarne l'humour. L'humour pince sans rire. Il a débuté son discours au Congrès travailliste en se moquant de la presse tabloïde avec délices. Je vous raconte, le Mail Online avait expliqué que Corbyn était favorable à la disparition de l'humanité détruite par une astéroïde. Alors Corbyn a promis qu'il ne prendrait pas une telle décision sans réunir un groupe de travail sur le sujet.
Ça, c'est drôle.
Deuxièmement, le Mail on Sunday a dit que la Ligue de football anglaise allait s'effondrer s'il devenait Premier ministre. Logique, a expliqué Corbyn, les joueurs de foot ne survivront pas à l'astéroïde qu'il projettera sur la Terre. 3. Le Times, qui n'est pas tabloïde, lui a reproché d'utiliser une bicyclette maoïste. Corbyn en rit encore. Plus sérieusement, le patron du Labour a repris à propos de son parti l'image footballistique suivante. Ils ont eu un été horrible, ils ont 160 000 fans supplémentaires, les abonnements sont épuisés, les nouveaux supporters sont jeunes et optimistes, je ne vois pas comment le Labour peut survivre à une telle crise. C'est vrai, Nicolas, il y a quelque chose dans le phénomène Corbyn qui mérite d'être mieux compris. Wait and see.
Merci Arnaud Leparmentier. Un mot du téléphone sonne à 19h20. Téléphone sonne autour de ce beau programme, être heureux. Après 70 ans, France Inter est partenaire d'une vaste enquête dont le troisième volet est consacré au bonheur des seniors. 84% d'entre eux se disent heureux. Ils espèrent la santé, ils chérissent leurs proches, ils aiment leur autonomie et redoutent donc la dépendance. Nous parlerons de tous ces sujets dans le téléphone sonne. Appelez-nous 01 45 24 7000. Passez par le mail franceinter.fr ou Twitter avec le hashtag Telson.